France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, hommage à Bertrand Tavernier, que j'ai eu la joie de recevoir plusieurs fois à ce micro pour des échanges illuminés par son immense culture, son amour du cinéma, mais aussi de la musique. Nous allons donc retrouver cette grande figure du 7e art dans un entretien de 2018 en forme d'autoportrait. Mais d'abord, en ce temps où nous recherchons tous des petits remèdes de santé, malheureusement, je n'en ai aucun à vous proposer, mais j'ai retrouvé cette chanson de 1947 pour ceux qui veulent vraiment se la ruiner, la santé.
Now, I'm a feller with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told, the kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette.
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death,
tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Now in a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and the queens, they just kept on coming round. Then I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on a-raising and a-laying the money down. Now he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink or swim. He finally called and then didn't raise the bet. I said, "Ace is full, pal, how about you?" And he said, "Well, I'll tell you in just a minute or two, but right now I just gotta have a cigarette."
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death,
tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. The other night I had a date with the cutest little girl in the 48 states, a hybrid uptown fancy little date. Now she said she loved me and it seemed to me that things were just about like they ought to be, so hand in hand we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice and our smooching party was going real nice, so help me Hannah, I think I'd have been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze and she said, "Tex, excuse me please, but I just gotta have another cigarette."
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death,
tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette.
Ouais, ce style parlé-chanté a d'ailleurs un petit côté rap avant l'heure, même s'il s'agit de country, d'une des grandes vedettes de la country, monsieur Tex Williams, dans ce qui fut son plus grand tube, Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette, enregistré en un temps où c'était bon genre de cloper.
Thank you.
Ah, j'aime beaucoup cette version du très viennois Fritz Kreisler, Schön Rosmarin, arrangée pour violon, accordéon et contrebasse dans un disque de l'excellent violoniste Gilles Appap.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais comment ne pas rendre hommage donc ce matin à Bertrand Tavernier, qui est d'ailleurs à l'honneur sur France Musique. Je vous rappellerai les autres rendez-vous tout à l'heure. Mais pour ma part, j'avais eu la joie d'avoir deux entretiens très chaleureux avec lui tout récemment. D'ailleurs, le dernier, c'était en janvier 2019. Il était venu à l'occasion d'une grande rétrospective de musique de cinéma à Radio France et nous avait parlé d'une façon générale de la musique au cinéma, un sujet qu'il connaissait merveilleusement, comme tout ce qui concernait l'art, le 7e art. Mais nous nous étions rencontrés également l'année précédente, le 5 mai 2018, pour un entretien plus en forme d'autoportrait, où on avait évoqué la vie et les films de Bertrand Tavernier par le biais musical. Voilà l'entretien donc que je vous propose de réentendre aujourd'hui. Et pour expliquer le début de cet entretien, il faut dire que nous l'avions enregistré juste après la disparition de son ami Stéphane Audran, qu'on va donc retrouver tout de suite dans la première chanson de ce moment très chaleureux avec Bertrand Tavernier.
Il n'a rien de rien dans sa petite tête, moins que dans le bas de son pantalon. Il a pas inventé la brouette, ni le fil à couper le gazon. Il est bête comme le dernier wagon d'un train de marchandises. Et question matière grise, c'est pas lui qui aura pompon. Et pourtant il m'a fait faire les halles et la rue Saint-Denis. Je dois lui ramener 5000 balles pendant que lui il reste au lit. Il est bête comme le dernier wagon de train de marchandises. Et question matière grise, c'est pas lui qui aura pompon. Quand il se met à compter le pognon, il y a comme une lueur dans ses yeux, un peu comme l'homme de Cro-Magnon quand il a inventé le feu. Il est bête comme le dernier wagon de marchandises. Et question matière grise, alors là, c'est pas lui qui aura le pompon. Faut-il que je sois bête pour que j'encaisse les coups de ce gros abruti? Les hôtels de passe de Barbès et la rue Saint-Denis. Mais l'amour, c'est comme une faiblesse, faiblesse ou maladie. Moi que j'aurais pu être une duchesse, je tapine rue Saint-Denis.
Bonjour Bertrand Tavernier.
Bonjour.
Voilà, bon, c'est à la fois une jolie chanson et un souvenir peut-être un peu triste aujourd'hui parce que c'est Stéphane Audran qu'on entend dans cette Java de la masochiste.
Malgré la disparition que je regrette tellement de Stéphane parce que Dieu, que je l'adorais, qu'elle me faisait rire, mon Dieu.
Oui.
J'arrive pas à être complètement triste parce que je la vois toujours comme elle était,
ouais,
c'est-à-dire
pleine de vie.
D'inattendu, de bizarrerie, de folie, de cocasserie, et qu'elle rend formidablement dans cette chanson. Je crois que je suis un des seuls à leur avoir demandé de chanter un peu.
Voilà, chanson, je rappelle, de Coup de Torchon.
Oui, dont j'avais écrit les paroles.
Ça, voilà, c'est une des rares chansons dont vous avez écrit les paroles.
Mais je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai décidé d'y aller, et pourquoi j'ai jamais récidivé? Ça, c'est deux questions que je me pose parfois et je n'ai pas de réponse.
Mais vous aviez déjà remarqué à l'époque que beaucoup de grands cinéastes du passé avaient écrit leurs propres
chansons? Non. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert bien après.
Oui.
Et j'ai découvert que c'était une des caractéristiques du cinéma français dont on ne parlait jamais.
Voilà.
C'est sans doute le cinéma au monde qui a le plus grand nombre de chansons écrites par des metteurs en scène.
Par des metteurs en scène.
9 fois sur 10, ce sont les paroles. De René Clair à Julien Duvivier, en allant jusqu'à Jacques Demy, Agnès Varda, voire Jean-Luc Godard, qui ont écrit des paroles de chansons. Mais il y a aussi des metteurs en scène qui ont écrit des musiques.
Des musiques, oui.
Et des musiques de chansons, dont Jean Grémillon.
On entendra d'ailleurs tout à l'heure une de ses chansons co-écrites.
Oui, et dans l'épisode de la série qui s'appelle Voyage au pluriel à travers le cinéma français, à un moment, on voit que René Clair raconte que il n'était pas totalement satisfait de ce que la première ébauche que lui avait amené Jaubert. Et un jour, en déjeunant avec Grémillon, Grémillon avait apporté des valses qu'il avait écrites. Et il a dû jouer une valse. Et Clair a dit, mais ça va parfaitement.
C'est ça que je veux.
Et donc, c'est l'une des valses de Grémillon. Et après, Clair indique le moment où Jaubert reprend, a écrit le pont et la jonction avec la... Donc, alors ces valses, entre parenthèses, qu'a écouté René Clair, je crois pas qu'il existe aucun enregistrement des valses de Grémillon.
De Grémillon, non, ça je pense pas.
Et c'est vraiment dommage. Et c'est quelque chose que Henri Dutilleux regrettait, parce qu'il trouvait que c'était un très bon compositeur.
Alors on va revenir à tous ces maîtres du cinéma français et de la musique, dans le cas de Grémillon. Mais je voudrais aussi, avant qu'on fasse un petit retour dans votre œuvre et dans le passé, Bertrand Tavernier, quand même souligner, je regardais votre filmographie, les compositeurs, les bandes originales. Il y a des cinéastes pour qui la musique, ça vient un petit peu en deuxième. On a l'impression que pour vous, c'est quand même quelque chose de structurant dans tout ce que vous avez fait depuis vos débuts, hein.
Absolument, absolument.
Il y a deux familles de cinéastes comme ça, ceux qui ajoutent la musique et ceux qui pensent avec la musique.
Ah oui, je pense. Que cette musique soit une musique originale ou que ce soit, par exemple, dans le cas de Scorsese, de Tarantino, une musique qui consiste en allant chercher dans les répertoires.
Oui.
Mais oui, il y a des gens qui pensent musique et il y a des gens qui découvrent quelquefois leur compositeur quelques jours avant l'enregistrement.
Oui, c'est ça. Oui, une fois que le film était terminé, quoi.
Oui, ça a toujours existé, ça.
Ouais.
Et on voit d'ailleurs les cinéastes qui s'intéressaient à la musique. Et en travaillant sur le cinéma français, j'ai vraiment repéré que, je pense pas seulement à des grands noms comme Clouzot, comme Renoir, comme, des gens comme Decoin, Duvivier attachaient une importance énorme à la musique. Et on s'aperçoit que Decoin fera deux fois travailler Dutilleux, que dans un de ses derniers films, Maléfice, Decoin va chercher Pierre Henry.
Ouais.
C'est sa seule musique de film. Donc ça témoigne de... Tandis que Duvivier pensait, vers la fin de sa vie, à faire une adaptation musicale, en forme de drame musical, de Casque d'or, et il avait été contacté Lalo Schifrin, dont ça aurait été la quatrième ou cinquième musique.
Et le lien entre deux générations, totalement différent.
C'est de voir que c'est des metteurs en scène qui étaient très, très, très curieux des musiques. Et d'ailleurs, dans leurs films, ça se voit.
En quoi ça se voit?
D'abord que très souvent, les musiques sont très, 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 très bonnes.
Oui.
Très, très bonnes, et que c'est pas du tout venant. Qui a des vrais principes. Ça se voit dans le respect qu'ils ont pour les compositeurs. Duvivier mettra Jacques Ibert comme premier carton de Golgotha, avec lui.
Ah oui.
Un film de Duvivier, musique
du
de Jacques Ibert. Premier carton. Ça veut dire l'estime qu'il avait pour Jacques Ibert, compositeur qu'on a oublié.
Grand musicien.
Oui, mais Wells avait fait appel à lui pour Macbeth.
Alors, on va revenir à tous ces cinéastes et ces compositeurs, mais on va quand même commencer par parler un peu de vous, Bertrand Tavernier, et peut-être par une des chansons ou un des chanteurs qui ont nourri chez vous très jeune cet amour de la musique. Je veux parler d'Eddy Constantine.
Dans la vie, je l'avoue, j'ai toujours un petit penchant pour les femmes. Qu'elles soient brunes, qu'elles soient blondes, à chaque fois, moi j'ai le cœur qui s'enflamme. Et souvent, lorsque j'ai des ennuis, c'est évidemment par les femmes. Cependant, croyez-moi, je ne pourrais pas m'en passer. Ah, les femmes, elles font peur des folies, aux plus jeunes comme aux plus vieux. je suis à l'heure, merci. Je n'ai pas honte de l'avouer, messieurs. Et des fois, il m'arrive de prendre des résolutions sur les femmes. Je me dis, maintenant, tu connais trop bien la chanson. Plus de femmes.
Plus de femmes.
Oui, mais voilà.
Oui, mais voilà.
Bien t'a passé. À petits pas. Une jolie fille qui m'a regardé. Elle me sourit. Tout est changé. C'en est fini.
Fini.
Je suis prêt à recommencer. Et je crois ça sera comme ça tant qu'il y aura des femmes et des hommes. Et pourtant on devrait se rappeler la fameuse histoire de la pomme. Mais on a beau chanter que les femmes dans la vie viennent tout compliquer. C'est curieux, mais chaque fois on l'oublie. Et vraiment jamais rien m'empêchera de vous aimer. Oui, mesdames. Quant à moi, je l'avoue, j'aurai toujours mon petit penchant pour les femmes.
Alors, si j'ai bien compris, Bertrand Tavernier, votre père, qui était un éminent écrivain et intellectuel, aimait plutôt la musique classique, oui, la oui. chanson à texte, Hélène Martin, aussi des choses comme ça, très belles oui, d'ailleurs. Oui, et vous, c'était Eddie Constantine dans votre adolescence.
Moi, j'adorais. Il aimait aussi, mais de manière comme un divertissement, il aimait quand même bien le jazz. Et puis, mais c'est vrai que moi, c'était Constantine. Mais c'est Jacques Douai.
Votre père, vous l'avez fait entendre, oui.
Oui, et de très belles chansons.
C'est très bien aussi.
Il chantait des chansons de Ferré, comme Le bateau espagnol. Et j'avais été vers Ferré aussi. Mais Douai chantait de très, très belles chansons.
Et Constantine, vous êtes allé l'applaudir. Et
oui,
vous étiez tombé par le cinéma ou
c'est
par la
cinéma,
chanson
c'est par le cinéma.
C'était déjà le cinéma.
C'est par le cinéma. Puis après, j'avais acheté ces 45 tours. Je me rappelle, le premier que j'avais acheté, c'est un des premiers 45 tours que j'ai acheté de chansons, c'était celui où il y avait une chanson de Jean-Claude Darnal,
oui.
Dans le képi, le fusil qu'on m'a donné,
oui,
il a mis
sûr.
Une rose, une rose
de
son
plus grand succès
le
de,
Soudard,
de Darnal.
Le oui. Soudard, le Soudard. Et dedans, il y avait La fille des bois, je me rappelle aussi, de l'autre chanson que je connais encore. Là, j'avais 12 ans à peine, mais je savais déjà, jamais plus, jamais, voilà. Et j'allais voir les films, alors oui. Le film de Jean Sacha, qui m'avait fait une grosse impression, les films de John Berry, ça ouais. Babardait et Je suis un sentimental, que j'aimais beaucoup. En revanche, les films de Bernard Bordery m'ont toujours semblé complètement nuls. Et quand je les revois, quand je vois La Môme Vert de Gris, c'est un film vraiment qui est nul.
Qui n'est pas, ouais.
Pas du tout.
Qui valait pas la peine. Mais ouais. Alors, le jazz est arrivé un petit peu après.
En même temps, le jazz, je découvre Constantine et Duke Ellington.
Ah oui, c'est pas mal.
Et la guilde du jazz, qui était rue de Rivoli, qu'on pouvait avoir, si on achetait un pick-up,
ouais.
Tepa, je me rappelle.
Tepa, bien sûr, qu'on pouvait pick-up. Porter avec les piles
oui,
en week-end, sous la tente.
Un pick-up Tepa, on avait le droit à un disque 25 cm gratuit qui était les 10 chefs-d'œuvre du jazz.
Ah oui.
Oui, oui, que j'ai eu gardé pendant des années, dont j'essaye de racheter en CD tous les titres. Et j'étais presque tous trouvés, sauf un Jack Teagarden.
Et ça allait jusqu'au bebop?
Ça allait, il y avait un peu de bebop, il y avait Parker. Ouais. Il y avait Relaxing at Camarillo de Parker, qui est un truc formidable. Non, ça allait jusque West Coast, Bebop, il y avait pas Armstrong, mais il y avait surtout beaucoup de trucs de middle jazz qui étaient très intéressants.
Alors, je rappelle, première jeunesse lyonnaise, ensuite arrivé à Paris, et où vous commencez à vraiment devenir un passionné de cinéma qui passe son temps dans les projections, hein, très jeune.
Oui, dans les salles d'abord, les projections, c'est très tard, c'est quand ouais. J'ai réussi à connaître des critiques de cinéma, un tout petit peu. Mais sinon, c'est dans les salles de quartier, voilà. Alors DVF.
Où on voyait parfois des films que justement on pouvait pas voir à la cinémathèque.
Oui, on voyait des films à l'époque qu'on ne voyait pas à la cinémathèque, on les voyait d'abord. D'abord parce qu'ils étaient souvent en VF, et puis c'était des titres qui n'étaient pas considérés comme respectables. C'était des westerns, des polars. C'est petit à petit que ces films ont eu le droit de citer. Très souvent, à part quelques auteurs comme John Ford ou William Wellman, ils n'étaient pas considérés par la critique.
Alors vous vous rapprochez d'un certain nombre de cinéastes. Il y a Melville, il y a toute la nouvelle vague, enfin une partie,
toute la nouvelle vague dont j'ai été très proche. J'ai été l'attaché de presse quand même de Godard, de Chabrol, de Varda. Voilà. Et je suis resté de Chabrol. Je suis resté très très longtemps et j'adorais. Chabrol avait une très grande connaissance de la musique.
Voilà. Il paraît qu'il chantait des airs d'opérette.
Tout
vous dites ça.
D'opérette et d'opéra. Il chantait. Ouais. Il était extrêmement fort. Il avait une connaissance quasi encyclopédique, et aussi bien que de la gastronomie.
Voilà. Et alors, justement, Chabrol et Godard, ça amène tout de suite deux noms, de deux compositeurs, dont l'un a joué un rôle assez vite à vos débuts, puisque d'un côté, Chabrol faisait souvent ses musiques avec Pierre Janssen, et le grand ami de Pierre Janssen, c'était celui qui avait fait beaucoup de musique pour Godard, Antoine Duhamel. Et oui. Duhamel, c'est très, très tôt dans votre carrière.
C'est très, très tôt. Je ne me rappelle plus.
Comment je le connais,
je sais que je l'approche très tôt pour un des sketchs que j'avais fait.
Voilà.
Là, je lui demande de faire la musique. Le premier sketch que j'ai fait, qui est sorti maintenant en DVD, qui est Les Baisers, j'avais demandé à Eddie Vartan.
Ah oui, que vous aimiez beaucoup aussi, Sylvie Vartan à l'époque.
J'avais été voir, qui m'avait permis d'être un des spectateurs qui peut dire j'y étais là, le fameux concert où Sylvie Vartan passait après les Beatles et Trini Lopez.
Et vous étiez là?
J'étais là. Et les Beatles qui se faisaient huer.
En première partie de Sylvie Vartan.
Ils passaient avant Trini Lopez. Il y avait les Beatles, qui avaient un accueil très médiocre.
Ouais.
J'ai lu après qu'ils avaient décidé de ne jamais plus revenir en France. Parce que ça avait été un accueil épouvantable. Il y avait tous les fans de Sylvie, n'attendaient que Sylvie. Ils disaient Sylvie, pendant les Beatles. Il y avait Trini Lopez, dont il n'y avait qu'un seul air. On s'apercevait qu'il n'y avait qu'un seul air qui avait marché, c'était Si j'avais un marteau.
Ouais,
le reste, on ne connaissait rien de Trini Lopez.
Et Sylvie Vartan, qui était la vraie vedette.
Oui, évidemment. Oui. Je serai la première pour aller danser, je serai la plus belle pour aller danser, tout ça. J'entends la pluie qui ruisselle et tout ça, je connaissais par cœur. Et j'avais été chercher Eddie Vartan.
Vous étiez très éclectique, finalement, parce que de Sylvie Vartan à Antoine Duhamel, pour vos deux premières musiques, Eddie Vartan.
Eddie Vartan, qui était très sympathique, qui jouait de la trompette, pas mal. Il jouait un blues dans mon film. Ces musiciens qui avaient été pris pour jouer la musique du sketch suivant avaient été incapables de déchiffrer Misraki.
Ah oui, c'était trop compliqué.
C'est trop compliqué.
En tout cas, voilà, Antoine Duhamel, il va vous suivre pendant pas mal d'années pour certains films, et notamment quelques années plus tard, évidemment, pour les très belles orchestrations, arrangements, comment est-ce qu'on dit, de Que la fête commence.
Oui. Il a reconstruit l'opéra d'après le manuscrit du Régent, et c'est un travail absolument extraordinaire. Thank you.
Et on a bien sûr tous reconnu Que la fête commence.
La chaconne de Que la fête commence.
Voilà, oui. Avec ces musiques de Philippe d'Orléans, oui, donc révisées par Antoine Duhamel.
Pas révisées, il avait respecté la partition complètement, oui. Mais il l'avait écrite. Il y avait un manuscrit original, il fallait l'adapter,
voilà,
il fallait
l'orchestrer.
Et il avait été désolé qu'aucune marque de disque n'accepte d'enregistrer la totalité de l'opéra. On s'était fait envoyer bouler par tout le monde, par Erato, je me rappelle. C'était l'époque, la musique baroque n'était pas considérée.
Bien sûr.
Je me rappelle, Erato, ils nous avaient à peine reçus.
Et pourtant, ils ont été parmi les premiers
mais plus tard,
à soutenir la musique baroque un peu après.
7-8
ans. Mais
là,
en 1975, oui, c'était un petit peu
tôt. Et donc, on n'avait pas pu enregistrer la totalité de l'opéra. Et puis, il avait été très marqué par le fait que personne n'avait noté dans la critique que la musique du film était écrite par le personnage principal.
Et oui, voilà,
par la région de France.
Oui.
Ce qui est quand même, et par la personne qui dirigeait la France. Ce serait comme de penser maintenant qu'Emmanuel Macron
écrirait de la musique.
Musique dont Gérard Collomb écrirait le livret, puisque le livret de cet opéra était écrit par le ministre de l'Intérieur de l'époque.
C'est parfait. Hein.
Oui. Donc on imagine Gérard Collomb écrivant un opéra sur les migrants.
Hein. Très bien. Dites-nous un mot d'Antoine Duhamel, qui était un personnage.
C'était un personnage
haut en couleur.
Haut en couleur, lunaire.
Oui, avec sa grande barbe.
Avec une barbe, quand il vous embrassait, vous embrassait à la russe, comme ça, qui était toujours d'une affection extraordinaire. Il vivait constamment dans un état de fièvre créatrice, d'enthousiasme.
Oui, c'est ça.
C'est un enthousiasme.
Ouais, c'est vrai.
Il est parti dans des projets extravagants dont on lui disait, mais Antoine, mais il était prêt à soutenir des écoles, à passer 2 ans pour travailler sur un projet.
Ce qu'il a fait à Villeurbanne, notamment.
Là,
oui.
c'était tout à fait formidable. Il n'avait pas toujours les pieds sur terre au niveau pratique. C'est quand même des seules personnes dont aucun des opéras n'a été enregistré. Il n'avait aucune trace.
Mais vous les connaissez?
Ah, mais moi j'ai été les voir tous, oiseaux de Sauvage. J'ai été voir Ubu sur la butte, où il y avait Jean-Marc Bory et George Wilson qui jouaient des instruments. George Wilson jouait du ténor, du saxo ténor, à un moment. Il y avait un passage qui lui permettait de prendre des solos de terrain. Et Jean-Marc Bory de la trompette. Et ça, il adorait ça, Antoine. Mêler du jazz avec de la musique très savante.
Lundi, monsieur, vous serez riche.
Moi, je trouve que c'est un des opéras que je rêverais qu'on monte, que le Châtelet reprenne, qu'un jour à l'Opéra Comique on reprenne, parce que c'est un très joli livret de Remo Forlani, ce qu'il avait écrit un peu après Guerre et Paix au Café Sneffel. Ouais. Il avait écrit, c'est une sorte d'allégorie sur Don Juan. Et Forlani et Duhamel auraient voulu des comédiens chanteurs. Et le metteur en scène, qui était un metteur en scène très classique, dont la mise en scène était très académique, avait imposé des chanteurs qui ne savaient pas très bien jouer. Et ça n'a pas eu le succès que ça aurait dû avoir. Il voulait Marielle. Il l'avait écrit pour Marielle, Forlani. Et Marielle savait très bien chanter, aurait pu tenir.
On le voit dans un gros film, d'ailleurs.
Oui, je l'ai utilisé dans Les Enfants Gâtés. Mais voilà, et je voudrais vraiment militer, faire passer le message que ça fait partie, il y en a pas mal, des opéras contemporains qu'il faudrait monter.
Reprendre et présenter au grand public.
Et présenter au grand public. Je trouve que ça devrait être la mission de Radio France. De faire découvrir un jour ses œuvres, de même que ce serait doit être leur mission de faire découvrir les grandes musiques de films qui n'ont pas été. Mais je crois ça qu'on va y arriver. Mais
vous serez là à Radio France, on en reparlera tout à l'heure.
Oui.
En tout cas, merci pour Antoine Duhamel, moi je l'aimais beaucoup aussi, il nous a quittés en 2014.
Oui.
Alors évidemment, Antoine Duhamel, ça a été un compagnon régulier, mais très vite est arrivé aussi celui qui a peut-être été votre musicien par excellence, on peut dire, Philippe Sard. On va y revenir, juste simplement votre rencontre avec Philippe Sard.
Elle vient à travers Claude Sautet. J'étais l'attaché de presse de Sautet, et donc je découvre Sard avec Les Choses de la vie, la qualité de la musique, aussi le rapport très intime que Sard avait avec Sautet, qui fait partie des metteurs en scène qui connaissaient super bien la musique.
Ouais.
Alors lui, il avait été critique de musique, d'ailleurs de jazz, je crois.
Oui, vous avez dit qu'il connaissait tout le répertoire.
Ah oui, il connaissait le répertoire. Il y a un moment, c'est mon temps limite, quand dans César et Rosalie, il chantonne sur tout un air de Bach.
Ouais.
C'est absolument... Et il y a une très bonne émission de Philippe Meyer, je crois, qui était sur la 6, on voit Sautet qui dialogue avec Philippe Meyer et qui explique pourquoi il a choisi Ravel et Bach, les deux compositeurs qu'il veut faire jouer et découvrir. On lui demande pourquoi. Il dit, mais qu'est-ce qui les rapproche? Il dit, la percussion. Tous les deux, le sens de la percussion, le sens du tempo. Et Bach, il n'est pas barbant, Bach. Il n'est pas barbant, il n'est pas académique. Bach, il est vivant, il est vivant.
Ça, c'est Claude Sauté. Formidable. Alors, tiens, justement, si on écoutait une chanson de Philippe Sard avec Jean-Pierre Marielle,
oui,
ça pourrait être donc effectivement des enfants gâtés.
C'est
mais
ça.
Il y a aussi la voix de Jean Rochefort. Hein.
Bien sûr. Voilà. Il y a Jean Rochefort et des paroles de Jean-Roger Cossimon.
Voilà.
Admirable parolier, admirable chanteur, admirable... C'est...
Dont il faut dire que dans votre film précédent, qu'on tout oui. connaît, Le Jugé et l'Assassin, il est également là comme
il
chanteur.
Mais il fait partie de mon imaginaire, Cossimon. J'ai découvert toutes ses chansons. Je pense que Comme à Ostende et Le Temps du Tango sont deux des plus grandes chansons françaises jamais écrites.
Hein. L'interprète aussi.
Mais l'interprète, il est bien comme interprète, ouais. Cossimon, mais il est surtout sublime parolier.
Bien sûr.
Sublime, sublime parolier. Bordel à cul, charrette à bras. C'est qui ne passe jamais, cette chanson.
La chanson des Enfants Gâtés, c'est vous qui lui avez demandé?
C'est moi, c'est moi qui l'ai demandé, qui ai demandé le texte. Je lui avais demandé, dans Le Juge et l'Assassin, de faire des à la manière des complaintes de l'époque, des chansons patriotiques. Voilà. Là, comme Sigismond le Strasbourgeois. Ouais. Et puis, je lui ai dit, tu connais très bien les chansons de Fréhel.
Oui, voilà.
Où est-il mon moulin de la galette, mon bistrot du coin, qui on entend dans Pépé le Moko.
Bien sûr.
Et tout de suite, ça le branchait. Il avait une connaissance. Et, d'ailleurs, on parlait de chanteurs de music hall. Il était intarissable là-dessus.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame, à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien. Chronicos en argomuche, et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites, pas loin du tabac buvette, il y a l'église et la mairie. Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence, rien ne vaut l'air de Paris. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, on se croirait au printemps et le ciel est toujours bleu. On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays. La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris. Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée le long des Champs-Élysées et comprennent que Paris restera quoi qu'il advienne, la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelle, dans le genre exaltant, on ne pourrait pas faire mieux.
Ah mais quand on entend ça, Bertrand Tavernier, on regrette d'abord que Jean-Pierre Marielle n'ait pas fait plus de chansons.
Oui, 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 il chantait formidablement.
Ça marche très, très bien.
Et c'est lui qui siffle.
Et c'est lui qui siffle en plus, donc, à la fin.
Ça en fait le mari de Micheline Dax.
Voilà, exactement. Notre regretté Micheline Dax, qui est venu souvent à ce micro, il y a déjà maintenant un peu longtemps.
Et qui était la première à envoyer des lettres à Henri Dutilleux après l'écoute de ses symphonies.
Micheline Dax ?
Oui, c'est dans le livre sur Dutilleux, je découvre que Micheline Dax lui en écrivait des. C'est absolument formidable. Et elle a enregistré même des partitions de Pierre Boulez.
Ah bon ?
Micheline Dax, je pense que Pierre
Boulez. Je découvre des
aspects inconnus de la carrière de Micheline Dax. Pierre Boulez a fait appel à elle, je crois,
aller voir pour un truc.
Ça, c'est tout à fait cocasse. C'est la rencontre de deux univers.
En tout cas, voilà, cette chanson tirée des Enfants gâtés, avec la musique de Philippe Sard, enregistrée avec des très bons musiciens.
Hein. Oui, oui, oui. Il y en avait voulu prendre des musiciens dont je voyais les noms quand je prenais le métro dans les années 50. Je crois qu'il y avait Pierre Spears, André Paquinet, et Benny Vasseur, le trombone. C'était que des musiciens comme ça.
Ils venaient à la séance tous.
Ils venaient. J'avais demandé, je sais pas s'il y a eu Jerry Mango, le batteur de Jerry Mango, parce que je me souviens de Jerry Mango et son orchestre.
C'était souvent aussi dans les musiques de Sard de Marcel Azola qui était
alors,
à l'accordéon.
C'était presque toujours Azola qui tenait l'accordéon.
Et vous-même, alors justement, vous cinéaste mélomane, ce qui n'est pas si fréquent, on l'a dit, vous assistiez aux séances d'enregistrement.
Bien sûr, c'était un de mes plaisirs et j'ai toujours dit que les compositeurs étaient les premiers critiques du film.
Ouais.
Parce qu'ils réagissaient aux images que vous avez faites, au film, au montage que vous leur aviez montré. Et si tout d'un coup la musique était belle, vous disiez, mais il y a peut-être une raison, c'est peut-être que ça les a portés. Et je dis toujours que la meilleure critique de l'Atalante, c'est la musique de Maurice Jaubert.
Ah oui, c'est beau.
Parce
que
c'est, elle définit le génie de Vigo. Elle en capte le lyrisme, l'invention, la modernité, les élans mélodiques, la souffrance qui est derrière et en même temps l'espérance, l'innovation. Jaubert a tout senti ce qui faisait battre le cœur de Vigo.
Et ben justement, on va écouter un peu de Maurice Jaubert dans un instant, mais encore une question, dans les films de Bertrand Tavernier, c'est quoi le déroulement, disons, de la partie musicale par rapport à la conception du film, à sa réalisation? La musique intervient à quel moment dans votre travail?
Parfois pendant l'écriture du scénario.
Oui.
Je veux connaître le compositeur quand j'écris le scénario.
Déjà.
Déjà.
Il est tout de suite
déjà
choisi.
Déjà, je lui soumets toutes les versions du scénario. Il le lit, il le lit pas.
Ah oui.
Mais au moins, il voit comment ça évolue et s'il les regarde, ça lui donne une meilleure idée que beaucoup d'explications. Ça m'évite des explications. Mais sur tous les films, même le film américain que j'ai fait, là, dans La Brume électrique, j'ai rencontré Marco Beltrami. On n'avait pas encore un scénario des films.
Compositeur.
Et il m'a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait dans toute sa carrière. Généralement, généralement, on l'appelait 5 semaines avant le mixage. On lui disait, on veut te montrer un film, etc. Et il disait, quel plaisir, parce qu'il avait pu partir en Louisiane, écouter des gens, étudier des instruments locaux, voir que ce qu'ils pouvaient en tirer. Il me disait que c'était extraordinaire, tout ce que ça lui avait apporté, de venir très tôt sur un projet.
Il vous arrive aussi d'utiliser la musique dans le tournage ?
Ah oui, oui, oui. Oui, d'abord sur Un dimanche à la campagne, où c'était du Forêt.
Oui, là. Ça, on va en écouter un bout tout à l'heure, c'est tellement
bon. C'était du Forêt, mais ça m'arrive... Très, très souvent, j'ai des chansons dans les films.
Oui.
On est forcé de les avoir pendant le tournage. Il y avait avec Sard, au début, sur Le Juge l'Assassin, il était venu avec des playbacks. Ouais. Et après, je me suis juré de ne pas recommencer le playback. Ouais. Donc, j'aime enregistrer en direct, avec tous les risques d'imperfection. Mais je trouve que ça me plaît plus. Donc, il faut qu'on ait la musique avant.
Bien sûr.
Il faut qu'on ait la musique très tôt. Donc, je peux écouter la musique. Je l'ai eu très tôt, celle de Louis Clavis, pour « Ça commence aujourd'hui », parce que je voulais que ce soit joué, qu'il y ait une valse et qu'il y ait une fanfare, une musique de fanfare qui soit jouée dans le film.
Ouais.
Donc, il est venu à Anzin présenter des thèmes au Big Band d'Anzin. Et il m'a d'ailleurs convaincu, là, d'abord par son approche extrêmement respectueuse des musiciens locaux, son côté très pédagogue. Il s'est tout de suite fait accepter. Et en écoutant cette musique, après, je lui ai dit, mais Louis, on a le thème central du film.
Voilà.
La valse que tu as jouée, j'en veux 3 déclinaisons. J'en veux une déclinaison grand orchestre, une déclinaison juste clarinette, piano et accordéon. et c'est devenu la musique du film.
Alors vous l'avez dit, vous avez écrit beaucoup de chansons, inséré du moins beaucoup de chansons dans vos films, et vous aimez toute cette tradition de la chanson dans le cinéma français, incarnée par un certain nombre de compositeurs, de cinéastes, de paroliers. On va peut-être revenir un peu à ce sujet que vous traitez dans un récent documentaire, en commençant par écouter « À Paris, dans chaque faubourg », très belle chanson du film « 14 juillet » de René Clair. On l'écoute d'abord, puis on en dit un mot après. C'est Lise Gauthier, c'est la version originale de la chanson.
Chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelque destinée éclore un rêve d'amour parmi la foule, un amour. Une âme de 20 ans, pour elle tout se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves. Tout est couleur d'amour. Ils habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Ils lui lançaient des sourires, elle l'aimait sans lui dire, mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire comme un espoir infini. L'avenir efface le passé quand l'espoir lui à Paris dès la nuit venue à Paris dans chaque faubourg à toute heure une âme émue rêve encore à l'amour.
Vous nous en parliez au tout début de l'émission, Bertrand Tavernier. Cette chanson est coécrite donc par Jean Grémillon et Maurice Jobert, grand compositeur de cinéma mort au début de la guerre.
Qui a écrit tous les premiers René Clair et qui va ensuite écrire les grands films de Carnet. Les chefs-d'œuvre de Carnet.
Mais vous me faites plaisir, Bertrand Tavernier, aussi à travers ces documentaires merveilleux que j'ai vus. On va y revenir tout de suite parce que moi, c'est vrai que quand j'étais adolescent, j'ai tout de suite aimé ce cinéma de Clair, de Duvivier, de Carnet. Et en même temps, j'ai découvert que les cinéastes de votre génération et surtout vos aînés de la nouvelle vague du cahier du cinéma avaient eu des discours très très durs sur toute cette génération de cinéma. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous réhabilitez.
Toute la génération qui est venue après les réhabiliter, des gens comme Corneau, comme Claude Miller, mais il y a très très longtemps, on luttait pour réhabiliter Gilles Grangier, pour faire redécouvrir René Weller comme cinéaste. Ouais. Non, c'est vrai, certaines personnes de la nouvelle vague qui ont eu un discours très dogmatique, qui était...
Y compris contre des grands cinéastes comme Clouzot, Clair ou Autant Lara.
Un peu moins du Vivier, parce que... Truffaut a écrit que Voici le temps des assassins était un chef-d'œuvre, oui. Et il a défendu Paubouille. Mais c'est vrai contre Lara, encore que Truffaut a défendu la traversée de Paris en cas de malheur.
Mais
il l'a défendu. Il y avait quand même une intelligence chez Truffaut qui faisait que même s'il avait été dogmatique à un moment, il revenait.
Oui, oui.
Ce que les disciples ne font jamais. Les disciples, ils continuent inlassablement à ratiociner sur les mêmes conneries.
Mais vous-même, quand vous aviez 25 ans, quel effet ça vous faisait ces classements des cahiers du cinéma et de la nouvelle vague sur le bon et le mauvais cinéma?
J'ai toujours su prendre ce qu'il y avait de bien dans la nouvelle vague.
Ouais.
C'est-à-dire que quand même, par ailleurs, il défendait passionnément Bresson, Ophuls, Becker...
Et Guitry, même.
Et Guitry et Pagnol. Donc, je savais prendre ce qu'il y avait de bon.
Ouais.
Et quand même, je me souviens, au Nickelodeon, on allait voir en même temps des films de Godard ou de Truffaut, souvent en avant-première. J'ai vu Le Signe du Lion bien avant qu'il sorte, par exemple, de Romer. Mais en même temps... On allait voir aussi les films de Lara. On allait voir Le Journal d'une femme en blanc ou Une femme en blanc se révolte. Et on trouvait que c'était deux films qui parlaient de l'avortement à une époque où l'avortement était puni de crime. Et que c'était des films qui abordaient des sujets que les films de la Nouvelle Vague n'abordaient pas.
Ouais.
C'est-à-dire que c'était une défense du droit des femmes et de l'avortement qui était incroyable. Ça, on en parle beaucoup dans le livre qu'on vient de faire sortir.
Vous venez de préfacer, faut dire, un livre sur Claude Autant-Lara de Jean-Pierre Blaise, avec donc votre préface, où vous rendez hommage à Autant-Lara, tout en soulignant aussi ce qui a pu évidemment être un peu déplaisant dans l'évolution de son parcours personnel. Mais
oui,
voilà.
Puis même parfois dans la personnalité d'un bonhomme.
Et dans sa personnalité, ses rapports avec les acteurs, etc.
Oui, il avait une manière de diriger les acteurs que je ne comprends pas du tout, moi. Je ne comprends pas du tout. D'ailleurs, il parlait de pensionnaires, par exemple, ces acteurs. Il disait, j'ai eu des pensionnaires dociles. Et surtout, il jouait en même temps qu'eux, toutes les phrases du dialogue. Et Gabin lui avait dit, va au fond du plateau, là tu m'emmerdes, à tout mimer.
Ah oui,
je suis en train de jouer sous mon
la
nez.
La traversée de Paris, elle était là.
Oui. Mais à côté de ça, Lara, qui pouvait être aigre, c'est un type qui fera sans doute les plus beaux portraits de jeunes filles de cinéma français, avec des films comme Douce ou Le mariage de Chiffon, ou Occupe-toi d'Amélie, ou des films comme ça, qui va faire des films extrêmement forts et corrosifs, et qui restent forts et corrosifs des années après.
Alors c'est donc l'un des personnages, on peut dire, de votre voyage à travers le cinéma français, avec toutes ces cinéastes d'avant-guerre et d'après-guerre que vous nous présentez à travers des séquences merveilleuses qui s'enchaînent pendant plus de 3 heures dans la version long-métrage, si on
peut
dire.
C'est la version long-métrage, et après, j'espère il y a 8 heures qui n'ont rien à voir avec le long-métrage, qui vont passer, j'espère, un de ces jours sur France 5.
C'est pas encore programmé.
J'attends toujours un mot de France 5 me disant quand est-ce qu'il le programme. Là.
Et 8 épisodes d'une heure.
8 épisodes de 57, 58 minutes. Non, 57, 58 minutes. Et après, ça sortira, le tout sortira après en DVD.
Alors,
et j'aurais aimé avoir 10 épisodes parce que je reste avec des montages inachevés sur Verneuil, Christian Jacques, les polars français, plein de choses comme ça.
Et donc vous est venu tout naturellement, j'ai envie de dire, l'idée de consacrer plus particulièrement un ou deux de ces épisodes à la chanson de cinéma, en tout cas à lui accorder une grande place.
Déjà dans le long métrage, je pense que je suis le premier cinéaste à avoir accordé dans une partie de l'histoire du cinéma français, par exemple 20 minutes à Jaubert ou à Cosma, qui sont souvent à peine mentionnés dans les histoires du cinéma. Les musiciens de films c'est vraiment les héros obscurs, oubliés par la critique. Ils sont très peu cités par la critique. Et ils sont absents des discographies. Essayez de trouver les musiques de films d'Arthur Honegger, de Darius Milhaud. De Henri Dutilleux. Alors Henri Dutilleux, on arrive La fille du diable, est paru dans un disque avec l'orchestre de la Loire, je pense, que j'ai acheté immédiatement. Là, La fille du diable, enfin, film d'Henri de Coin, très belle partition, dont Dutilleux disait que c'est une des rares œuvres de jeunesse qu'il conservait, qu'il ne reniait pas.
Alors on va écouter une autre chanson de cinéma, et puis on va revenir après sur ces deux auteurs, compositeurs, deux personnages très importants aussi, Jean Boyer et Georges Vamparis, ici, interprétés par Pile Sétabé dans le film Prends la route.
Oh, mais alors qu'est-ce qu'on attend? On passe ou on ne passe pas?
Mais vous voyez bien, cher monsieur, que le passage à niveau est fermé.
Oui, eh bien j'ai pas de veine, parce que les passages à niveau sont toujours fermés quand j'arrive.
qu'est-ce que vous voulez, ça, monsieur? C'est une question de chance. Le passage à niveau, c'est comme la vie. On attend, ou bien alors on passe tout de suite. On est une 8 cylindres, ou un simple taco. Au but qu'on veut atteindre, on n'arrive pas plus tôt. On passe comme une torpille, ou qu'on se traîne comme un veau. On se retrouve en famille devant le passage à niveau. Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte. On arrive ou trop tard ou trop tôt. On passe tout de suite où l'on fait le poireau. La barrière est en bas ou en haut. Ceux qui ont de la veine passent sans peine. Les pas vernis restent le bec dans l'eau. Il y a toujours un passage à niveau. Tenez dans les écoles, regardez les enfants. Il y en a qui sont des gnolles, il y en a d'intelligents. Mais plus tard dans la vie, premier est à la queue. Et le champion de l'idiotie se trouve en tête parce que il y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte. On arrive ou trop tard ou trop tôt. On passe tout de suite où l'on fait le poireau. La barrière est en bas ou en haut. Ceux qui ont de la veine passent sans peine. Les pas vernis restent le bec dans l'eau. Il y a toujours un passage à niveau.
Prends la route de Jean Boyer, donc grand personnage un peu méconnu du cinéma français.
Oui, il a très mal terminé. Les films, tous ses derniers films, Les Croulants se portent bien, sont des films...
C'était très mauvais après.
La plupart sont... c'est pas regardable. Mais il a fait pas mal de films joyeux, sans prétention, avec beaucoup d'énergie et d'invention, notamment ses films musicaux, avant-guerre et puis après la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Et il y a, jusqu'en 47-48, il y a plein de films qui sont... Il y a un côté bon enfant et en même temps des recherches, parce que, par exemple...
Prends la route, c'est comme une petite merveille.
Oui, on trouve le DVD, et là, il est trouvable chez René Château, il est pas mauvais. C'est un film qui est écrit pour le cinéma, c'est pas une adaptation d'une.
C'est un film musical, c'est pas une opérette.
Oui, et les gens chantent dans le Touring Club, dans les rues, en plein air, mais absolument comme dans un film de demi plus tard. Il n'y a pas du tout les contraintes qu'il y a dans les adaptations d'opérettes, où c'est très fréquemment, c'est assez souvent, ça se passe sur scène.
C'est du théâtre filmé.
Tandis que là, il y a des grands mouvements d'appareil dans le Touring Club, la chanson sur les petites secrétaires, là, tout ça.
Les Français ne le savent pas, parce qu'on pense tout de suite au cinéma musical américain, qui a commencé évidemment aussi avant la guerre d'une façon si extraordinaire, mais il y a... Pas seulement Prends la route, il y a toute une tradition, il y a les Reventura et beaucoup d'autres films musicaux en France dans les années 30.
Oui, avec des scénarios plus ou moins approximatifs, les Boyer étant parmi les meilleurs, il y a Un mauvais garçon, avec cette chanson formidable, écrite aussi par Boyer Van Paris, c'est un mauvais garçon, dont dans le film contient il y a une version par Henri Garat et une version par Darieux qui est à tomber à la renverse. Chaque fois, elle vous cloue, Darieux, là-dessus. Mais... Aussi, Boyer avait cette expérience, il avait travaillé en Allemagne à faire des versions françaises. Et les films allemands comprenaient beaucoup de chansons. Ouais. Par exemple, il y a un film allemand de Sion Mack, qui comprend une chanson splendide de Friedrich Holländer, et c'est Boyer qui en fait l'adaptation, c'est chanté par Florel. D'ailleurs, Florel était une chanteuse de génie, oui, de génie. Oui.
Bah, notamment dans l'adaptation, évidemment, de l'opéra de Katsu.
Je pourrais faire une émission entière pour réhabiliter Florel, la manière dont elle chante Kurt Weill.
Oui, bien sûr, Florel, l'opéra de Katsu, notamment.
Et puis le Grand Lustucru.
Exactement.
Le Grand Lustucru, le Roi d'Aquitaine. Les chansons de Jacques Deval.
Pour la Marie Galante.
Mais là, dans Tumulte, comment s'appelle cette chanson? C'est toute l'ivresse, toute « Je suis une femme infidèle », elle proclame. Là, là. C'est magnifique, ça, son interprétation à Florel.
On a parfois l'impression, quand on aime, comme moi, tout ce cinéma français musical des années 30, que les films sont quelquefois desservis, malheureusement, quand même, par un son d'assez mauvaise qualité. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un disque qui a été fait en même temps que le film, comme souvent, mais les bandes des films elles-mêmes ne sont pas formidables.
Le son parfois était approximatif, surtout c'était un son optique.
Voilà, c'est ça.
Souvent pas génialement enregistré. Et beaucoup de ces films demanderaient à être restaurés au
niveau
sonore.
Ça peut se restaurer.
Parfois c'est difficile, mais dans l'ensemble on est arrivé. Par exemple, la version restaurée des Enfants du Paradis, qui est sortie en DVD, voire et Blu-ray, révèle des choses. Parce qu'en améliorant le son, on s'aperçoit une chose, c'est que le personnage central, c'est Arletty.
Et oui.
Avec le son, en entendant toutes ces répliques, on s'aperçoit que elle prend une importance plus grande. Moi, quand j'ai revu le film dans la version restaurée, on s'aperçoit que c'est sur elle que Prévert a centré le film, beaucoup plus que sur Brasseur et Barreau.
Alors, on va retrouver tout de suite le duo, vous dites les deux compères, Jean Boyer et Georges Vamparis.
Oui.
Encore que Georges Vamparis, il a travaillé avec tout le monde, notamment beaucoup avec René Clair aussi.
Il a beaucoup travaillé avec Boyer, et il en dit beaucoup de bien dans ses mémoires.
Ses mémoires passionnantes, il faut le dire. Les jours comme ils viennent.
Oui, c'est formidable. Il y a quelquefois un petit peu, trop un carnet mondain d'énumération de tous les dîners auxquels il doit aller, là. Mais il y a des moments formidables quand il décrit que Debussy vient voir, je sais pas, les brigands d'Offenbach, et il s'assied à côté de lui, puis pendant là, il lui tape sur l'épaule et il dit « ça, c'est de la musique
hein, Debussy, hein ». Debussy, ça fait plaisir. Hein
oui, alors, c'est formidable.
Comme de bien entendu, évidemment, la chanson de Circonstances atténuantes.
Oui, avec chantée par...
Ils se succèdent tous, là.
Ils se sentent, puisque le but, et c'est filmé en plan séquence, c'est que un couple prend la relève d'un autre couple pour ajouter dans la description de ce qui se passe dans les rapports entre un homme et une femme.
Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus. Comme de bien entendu, ils se mirent en ménage, comme de bien entendu, elle avait du courage, comme de bien entendu, il était au chômage, comme de bien entendu, ça lui faisait déjà un gentil petit revenu. Comme de bien entendu,
voulant faire une folie, comme de bien entendu, il offrit à sa mille, comme de bien entendu, un billet de la loterie, comme de bien entendu, ça ne lui fit jamais que 100 balles de perdu, comme de bien entendu.
Mais il se mit à boire, comme de bien entendu. Elle ne fit pas d'histoire, comme de bien entendu. Mais pour pas être une poire, comme de bien entendu. Elle se régala en le faisant cocu, comme de bien entendu.
Il la trouva mauvaise, comme de bien entendu. Mais elle gagnait du pèse, comme de bien entendu. Au lieu de ramener sa fraise, comme de bien entendu, il se contenta de lui foutre le pied au cul, comme de bien entendu.
Et depuis on raconte, comme de bien entendu, qu'il y trouve son compte, comme de bien entendu. Et quand chez lui on monte, comme de bien entendu, il s'en va faire un petit tour au PMU. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu.
Un film que je ne saurais trop recommander à ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Circonstances atténuantes, 1939, Jean Boyer. Et puis alors, si vous voulez voir tous les films du genre, vous regardez le film de Bertrand Tavernier, mon invité, Voyage à travers le cinéma français, en attendant donc les 8 épisodes
de la série,
avec beaucoup de chansons.
Oui, et puis des metteurs en scène dont je ne parle pas, de Clouzot à
Autant. Les chansons de Clouzot, vous n'en parlez pas?
Non, mais des metteurs en scène dont je n'avais pas parlé. Clouzot, j'en parle dans la chanson.
Le Quai des Orfèvres.
Oui, la chanson de Quai des Orfèvres. Il écrit les paroles de quelques chansons Clouzot. De même que Guitry.
Avec
aussi.
Maurice Yvain, oui, ils étaient très, très proches, oui.
Et Guitry avait écrit les paroles.
La chanson de Fréhel.
Oui, et aussi de Mouloudji. De Mouloudji dans La vie d'un honnête homme. C'est pas tous les jours qu'il faut se foutre à l'eau, là, d'une complainte de Mouloudji formidable. Mouloudji, c'est d'ailleurs un peu la trait d'union entre beaucoup de ces cinéastes, hein, parce qu'ils chantent la très belle chanson de Carlo Rim, La complainte des infidèles, mais ils chantent aussi Guitry. Il a chanté d'autres chansons devant Paris, comme Un jour tu verras. C'est une chanson comme ça qui sort d'un film. Ça.
Un autre cinéaste qui a été très accablé, si on peut dire, par la nouvelle vague, c'est Carnet.
Oui, il a été réhabilité depuis. Mais il faut dire, pour certains cinéastes, Carnet, la nouvelle vague tombait parfois juste, parce que les films de Carnet des années 50, nous, à l'époque, on les trouvait décourageants.
Mais c'est comme alors ce que vous disiez sur Boyer, pourquoi ces gens qui étaient si brillants dans les années 30 deviennent si mauvais à la fin de leur vie?
À chaque fois. Alors, il y a beaucoup d'explications. Boyer, il y a des gens qui expliquent que c'était un type très doué, très fin, beaucoup plus cultivé que Boyer, mais à un moment qui avait envie d'argent, donc il acceptait tout. Et il y a un moment où on finit par s'user, abandonner un peu l'exigence, alors que ces films des années 30 et au début des années 40, il y a des vrais moments d'exigence. Nous irons à Paris, c'est... Mais Carnet, les films, Le pays d'où je viens, je me souviens que j'avais été le voir quand ça sortait, j'étais effondré. J'étais effondré. Et puis d'autres, Juliette ou La clé des songes. Oui. Oh, je trouvais ça mais monstrueux d'ennui, mortel. Tandis que c'est pas vrai d'Autant Lara. C'est pas vrai de Duvivier qui, à l'époque, tourne « Voici le temps des assassins », tourne « Peau bouille ». Même « La chambre ardente », il y a des choses qui sont intéressantes. Tandis que Carnet, il y aura guère que « Les assassins de l'ordre », il y a un retour un peu de Carnet.
Bertrand Tavernier, on a évoqué évidemment vos complices musicaux, en particulier Philippe Sard et Antoine Duhamel. Il y a quelqu'un, je voudrais qu'on écoute un petit morceau, puis vous nous en direz un mot, que j'avais reçu avec beaucoup de plaisir à cette émission, avec qui vous avez fait aussi du cinéma, c'est Oswald Andrea.
Ah oui, Oswald, formidable Oswald.
Formidable Oswald.
Très,
hein.
Très, très bon orchestrateur.
Oui.
Chef d'orchestre et directeur tout à fait fort.
On va écouter un extrait de Capitaine Conan.
Thank you.
deuxième quintet de Fauré qui suivait tout juste Oswald Andrea. Bon, voilà, deux ambiances musicales très contrastées, extraites de vos films, Bertrand Tavernier.
J'ai vécu avec cette musique-là de Fauré pendant des mois, là, pendant que j'écrivais le scénario, j'écoutais ça, et je ne comprenais pas ce que je lisais dans certains dictionnaires, que la musique, que c'était...
La Fauré, troisième manière de Fauré, difficile.
Oui, que c'était une musique de salon.
Ou de salon.
Salon, je trouvais que c'était une musique lyrique, poignante. Ouais. Là, et c'est un peu, j'étais content d'entendre la défense de Fauré par Jean-François Ziegel, qui était magnifique. Et voilà, donc j'avais décidé que ce serait ça la musique du film d'un dimanche à la campagne. C'est très dur à couper.
Mais c'était
très dur. C'était le casse-tête de mon monteur de savoir quand est-ce qu'on pouvait, puisqu'elle repart toujours. Donc ça, c'est une musique qui est très, très difficile à arrêter.
Alors, vous êtes parti, il faut préciser, de l'enregistrement, justement, encore Erato de l'époque, oui. Avec Jean Hubeau au piano, qui était un merveilleux foréen.
Oui.
Et c'est quand même une expérience un peu unique dans votre œuvre d'aller chercher une musique composée et de l'utiliser vraiment, pour le coup, comme un personnage du film. Enfin,
ça m'est apparu pendant l'écriture du scénario comme une évidence absolue. Oui. C'était la musique qui accompagnait cet après-midi. C'est une musique qui devait donner comme ça, qui devait prolonger les sentiments. Parce que c'était pas une musique pléonastique, c'est une musique qui allait au cœur de l'âme, je trouve. Ouais, ouais. Il y avait aussi de la musique originale, puisque j'avais fait enregistrer par Marc Perron une polka de Louis Ducreux.
Oui, c'est ça, vrai.
Être le seul auteur qui ait fait enregistrer du Louis Ducreux, qui était aussi compositeur de musique, non seulement auteur de chansons, c'est lui qui a écrit toutes les chansons qu'on entend dans les films de Max Ophüls.
Ouais.
C'est Louis Ducreux. Tourne mes personnages, tourne la vie, tourne les jours. C'est Louis Ducreux. Et il y avait une valse originale de Marc Perron qu'on entend, qui est jouée là pendant la séquence de la guinguette et qui est une merveilleuse valse dont Philippe Sard a écrit juste le pont pour la prolonger.
C'est ça qui est merveilleux avec Philippe Sard, parce que tout ce qui touche au cinéma l'intéresse, toutes les formes, il est...
Oui. Et c'était vraiment... quelqu'un qui s'intéressait au montage. Sautel utilisait beaucoup aussi pour qu'il ait un regard de monteur sur les films.
Alors, on a évoqué, donc, évidemment, les chansons, on va y revenir encore un tout petit peu, mais la musique d'Oswald Andrea à l'instant, la musique de Fauré, il y a aussi, évidemment, le jazz, on a dit au départ que c'est votre premier amour, quasiment, qui revient dans certains films, évidemment dans Around Midnight, mais aussi, plus récemment, dans Oli Lola, avec Henri Texier et sa contrebasse, et ses musiciens, et sa musique.
Oui, absolument.
Vous l'aviez connu
Je l'ai connu en allant
L'écouter au concert.
En allant l'écouter. Oui.
Vous allez toujours dans les soirées de jazz?
Oui, récemment un peu moins, mais j'y allais beaucoup. Et un jour, j'ai entendu un concert de Texier que j'ai trouvé sublime et j'ai été frappé par la beauté mélodique de son écriture. Et je me suis dit, cet homme peut certainement composer une très très bonne musique de film.
Thank you.
Oli Lola, la musique d'Henri Texier pour le film de Bertrand Tavernier en 2004. Bertrand Tavernier, je crois qu'on arrive déjà à la fin. Il va falloir que vous reveniez parce qu'on a tant et tant encore de choses à se dire. En plus, j'ai adoré vos derniers films comme Quai d'Orsay, par exemple, en particulier même.
Je m'étais beaucoup amusé à faire ce film.
C'est même la première fois que vous faites une comédie à ce point.
C'est la première fois que je fais une comédie et je me suis régalé. Il y a des moments comiques dans tous les films, en coup de torchon,
absolument.
Et tout ça, mais, où que la fête commence. Mais là, je me suis régalé. Thierry Raphaël Persona, Anaïs de Moustier, puis toutes les branquignoles que j'avais autour de moi, c'était formidable.
Mais
formidable.
Simplement, je me demande, au fond, vous qui aimez tellement la musique, finalement, pourquoi vous n'avez pas tenté de faire carrément un film 100% musical à la demi ou autre?
J'ai à la fois pas trouvé le sujet.
Vous n'y avez pas pensé?
Non, j'ai pas pensé. Demi l'avait fait. Difficile d'arriver après Les Demoiselles de Rochefort. Avec l'association Demi Le Grand, pour arriver à égaler ça, faut se lever un peu de bon matin, parce que ceux qui ont essayé, je trouve même Jeanne et le garçon formidable et tout ça, je trouve qu'ils sont un peu cassés les dents. Demi Le Grand, c'est une perfection absolue. La La Land, c'est de la roupie de Sansonnet à côté. Ça, comme dirait Le Grand, il y a deux harmonies, deux accords, c'est facile.
Mais il y a aussi une autre façon de faire du film musical que font beaucoup les Américains et aussi un peu les Anglais, c'est d'aller revisiter le patrimoine du film, justement, de la comédie musicale et de le
de
le réinventer, de le relire, de le refaire.
J'ai toujours eu des sujets qui étaient différents de ça, qui n'étaient pas...
Un film sur le musical, sur Gilbert et Sullivan, sur Offenbach, sur le...
J'ai pensé à un moment autour du jazz, de me dire que...
Vous l'avez fait d'ailleurs quand même.
Mais j'ai fait ça. Mais de faire un film sur ce que vivaient les musiciens qui essayaient d'éviter le service militaire en 40 aux États-Unis, qui partaient donc en tournée dans les orchestres, dans le sud, et qui vivaient, et qui, comme ils s'embêtaient dans les tournées, c'est comme ça que naît le bebop. C'est-à-dire que les gens faisaient des concours de virtuosité à l'arrière du bus entre les saxos, à jouer de plus en plus vite, et tout d'un coup, ils élaborent un nouveau langage, tout en... en affrontant le racisme, le fait que les Noirs et les Blancs peuvent pas être ensemble dans le même resto, etc. De même, je suis tombé par hasard sur l'histoire de Artichaut pendant la guerre, l'orchestre de Artichaut, qui a été à Guadalcanal. Donc, il avait emmené son orchestre pour soutenir les soldats, ils ont été bombardés, il a subi un choc post-traumatique. Après, je me disais, mais ça, c'est un formidable sujet de film. Le type avec son orchestre qui est dans la jungle, et il y a les Japonais qui bombardent, et après, il va changer la composition de son orchestre, il va supprimer les cordes, et il va engager Roy Eldridge, et il va faire une version à tomber par terre de These Foolish Things.
Voilà encore des projets, alors, ça peut arriver. Parce que pour l'instant, vous êtes dans la relecture de l'histoire du cinéma.
Vous allez continuer à
Tavernier bientôt.
Je dois terminer 100 ans de cinéma américain. J'ai donc le voyage à travers le cinéma français. J'ai cette collection de bouquins dans lesquels...
vient de sortir Autant Lara de Jean-Pierre Blesse chez Actes Sud. Oui.
Formidable bouquin pour ceux qui s'intéressent un peu à ce cinéaste. Qui malheureusement est parti, lui il est parti en laissant une mauvaise impression, ce qui, quand on voit le courage de ce type, et moi ce qui m'amusait c'était quand les gens du Front National me disaient, vous savez qu'il est venu chez nous, il dit oui moi je rêverais que vous fassiez une projection de L'Objecteur, de Thune Tueur à Point, qui est un film qu'il a fait en 62 pendant la guerre d'Algérie, à la gloire de l'objection de conscience. Oui, je disais à Gollnisch, j'adorerais que nous voyions ce film ensemble.
Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Tavernier. Est-ce que vous voulez bien qu'on se quitte avec Suzy Delair?
Moi, Suzy Delair, qui m'a fait tellement rire, que j'ai trouvé tellement formidable, notamment dans un film qu'il faut découvrir, qui est Patte Blanche, de Jean Grémillon. Très, 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 très beau film. Et Suzy Delair, chanteuse, moi qui m'avais tellement emballé dans la vie parisienne, et je tenais à ce qu'il y ait un petit coup de chapeau à cette...
Alors là, c'est la grande duchesse, ça lui va bien aussi.
Oui, oui, ça lui va tout à fait bien. Et c'est en plus une opérette sublime.
D'Offenbach, bien sûr. Merci beaucoup, Bertrand Tavernier. J'espère à très bientôt.
Ton bras est fort et ton âme est fière, ce glaive sera bien apporté. Quand va s'en aller en guerre. Du moins, il me l'a raconté des mains de mon auguste mère. Il prenait ce faire redouté. Voici le sabre, le sabre, le sabre. Voici le sabre de mon père. Voici le sabre, le sabre, le sabre. Tu vas le mettre à ton côté. Tu vas le mettre à ton côté. Voici le sabre de mon père. Tu vas le mettre à ton côté. Après la victoire, j'espère te revoir en bonne santé. Car si tu mourais à la guerre, j'aurais trop peur en vérité de n'avoir plus jamais sur terre un moment de félicité. Voici le sabre, le sabre, le sabre. Voici le sabre de mon père. Voici le sabre, le sabre, le sabre. Tu vas le mettre à ton côté. Tu vas le mettre à ton côté.
Suzy Delair avec l'orchestre Valberg en 1960 dans la Grande-Duchesse de Gerolstein, un choix de Bertrand Tavernier que j'avais donc reçu avec beaucoup de plaisir le 5 mai 2018. Je ne saurais trop vous recommander de découvrir son voyage à travers le cinéma français, disponible en DVD et peut-être aussi par certains biais sur Internet. Et puis donc vous pouvez retrouver les hommages qu'on a rendus à France Musique et à Bertrand Tavernier sur le site francemusique.fr, y compris cette émission. Et à venir encore tout à l'heure, justement à 13h, Thierry Jousse dans Ciné Tempo. Et demain, dimanche, Musique et moi, Priscilla Lafitte à 11h. Vous retrouvez encore donc notre cher Bertrand Tavernier.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, filons à Moscou avec Shostakovich. Shostakovich, les danses de l'opérette Moscou Cheryoumouchki par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Ricardo Chailly. Et puis, comme chaque samedi, eh bien, pour terminer, nous allons écouter une petite chanson de Fernandel à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Aujourd'hui, une chanson d'avril 1947, Nono et Nana, avec d'irrésistibles paroles de Raymond Vinci.
Il s'appelait Nono, elle se nommait Nana, elle était de Bordeaux, et quand il l'aborda, tout de suite elle s'emballa pour son petit air ballot, parce qu'il venait du Congo, et danser la conga, c'est comme ça, ça se passa entre Nono et Nana. Ils prirent l'apéro, place de l'opéra, et mangèrent au Lido du jambon au Lida. Puis elle décampa, car s'il était de campo, elle avait trop de boulot pour faire la bamboula. C'est comme ça que ça se passa entre Nono et Nana. Le soir il la gâta, lui paya des gâteaux, lui fit prendre un moka et voir Pépé le Moko. Mais quand il s'excita, elle lui dit pas si tôt, après un bon repas, il me faut du repos. C'est comme ça que ça se passa entre Nono et Nana. Il prit son sombrero dans les rues sombrera, puis prit du curaçao et fit une curaça devant des soupiraux. Ensuite il soupira près du Trocadéro, dans le métro Cadéra. Et comme ça, ça se passa entre Nono et Nana. Le lendemain tout beau, il vint lui dire tout bas, je n'ai plus qu'un dada, t'emmener au dodo. C'est Bibi qui t'aura, je suis fort comme un taureau, j'ai battu Rigoulot. Mais elle rigoula. Et comme ça, ça se passa entre Nono et Nana. Alors il la mata, l'enleva sur sa moto, et pour qu'elle l'écoutât, il sortit son couteau.
Comme un fou il tapa, ayant j'aurais ta peau.
Et puis il la noya dans de l'eau de vie de noyau.
C'est comme ça, ça se passa, Nono, Nana.
Elle en reste un baba, et malgré ses bobos, soudain elle s'alluma, bien mieux qu'un chalumeau. Elle lui dit, mon Nono, je serai ta Nana, et si ma tête va, tu seras ma tête de veau. C'est comme ça, ça se passa entre Nono et Nana.
J'adore, près du Trocadéro, dans le métro Cadéra. C'était Fernandel en 1947 avec l'orchestre de Raymond Legrand. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteur préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique José Bernès et Dalia, réalisation Christine Amado. On se retrouve bien sûr samedi prochain et tous ces fans qui seront nombreux seront ravis d'entendre au micro mon invité Nicolas Destiendorf. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.